franceinter.fr.
Bonjour. Le Royaume-Uni va-t-il quitter l'Union européenne ? À quelques jours du référendum du 23 juin, la réponse à cette question reste très incertaine. Le meurtre d'une députée travailliste, Jo Cox, jeudi dernier, par un homme qui semble être un partisan du mouvement d'extrême droite, va bien sûr peut-être changer la donne. Il a bouleversé les Britanniques et la campagne pour le référendum. Impossible de dire pour le moment dans quelle mesure ce drame va influer sur le résultat. Dans les derniers sondages publiés avant ce crime, les partisans d'une sortie de l'Union européenne étaient passés devant ceux du maintien dans l'Union. Une victoire du Brexit serait un séisme qui ébranlerait sérieusement l'Europe. David Cameron, le Premier ministre britannique conservateur, avait promis ce référendum comme argument de campagne pour remporter les dernières élections législatives. Il s'est retrouvé pris à son propre piège, contraint de faire campagne en faveur de l'Union européenne contre une partie de son propre électorat fortement eurosceptique. Quel que soit le résultat, Cameron est affaibli et les conservateurs au pouvoir très divisés. Mais les travaillistes le sont également sur cette question de l'Europe. Ils n'ont fait qu'une campagne très discrète pour le maintien dans l'Union. Les nationalistes du UKIP, eux, peuvent considérer l'existence même du référendum comme une victoire. Jusqu'au meurtre de Jo Cox, jeudi dernier, la dynamique de campagne jouait en faveur du Brexit. Le reportage de Franck Madvon, que nous vous proposons ce matin, a été réalisé avant ce crime, qui n'y est donc pas évoqué. Notre correspondant au Royaume-Uni a interrogé les partisans d'une sortie de l'Union européenne dans plusieurs villes anglaises pour comprendre les raisons qui les poussent à souhaiter ce divorce.
Interception, le magazine de la rédaction.
Nous sommes à Leicester Square, dans le centre de Londres, et on va assister ce soir à la première du film Brexit, The Movie. C'est un film dédié à la cause eurosceptique. Alors, il y a beaucoup de monde ce soir, on se croirait un peu au Festival de Cannes. Il y a un tapis rouge d'ailleurs, des femmes en robe de soirée, des hommes en costume. Il y a devant moi une dame avec une magnifique tenue aux couleurs du drapeau britannique, aux couleurs de l'Union Jack. C'est la soirée eurosceptique où il faut être ce soir à Londres. On va voir ce que ça donne. Hello, sir. May I ask you a couple of questions for Radio France?
By all means.
Could you please introduce yourself? Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
I'm Councillor Howard Thompson.
Je suis Howard Thompson, conseiller municipal de Spelsorn dans le Surrey. Je suis aussi le vice-président de l'association locale du Parti conservateur et suis avant tout un démocrate. L'un des problèmes de l'Union européenne pour moi et pour beaucoup de personnes, c'est que contrairement au Royaume-Uni, où nous pouvons voter contre un gouvernement en place, nous ne pouvons pas faire ça avec la Commission de Bruxelles. Donc nous ressentons un déficit démocratique considérable.
Your t-shirt says a lot about what you will vote. Vous avez un magnifique t-shirt Vote Leave, votez pour quitter l'Union européenne. Est-ce que vous êtes fier d'être eurosceptique?
Yes, I'm absolutely a Democrat.
Oui, je suis absolument un démocrate. La liberté et la capacité de représenter des intérêts pour un gouvernement, pour un élu quel qu'il soit, c'est pour moi la définition de la démocratie, d'un système qui fonctionne. Si on regarde dans le monde, les nations les plus prospères sont les plus libres, celles où les électeurs, le peuple, peuvent changer le cours des choses.
Thank you so much. Enjoy your night.
Okay, thank you.
Bonne soirée.
Thank you.
Le député Jacob Rees-Mogg, député conservateur eurosceptique, est à 3 mètres de nous. On va essayer de lui poser quelques questions. Just some questions for Radio France. Est-ce que c'est important pour les eurosceptiques d'avoir des événements comme celui-ci?
Oui, c'est vrai.
Voilà toute l'étendue de mon français. Mais bien sûr, c'est important car nous sommes un mouvement de la base, un mouvement joyeux, très positif sur ce qui se passerait si nous sortions de l'Union européenne. Et puis-je rassurer le bon peuple de France? Nous continuerons à boire du claret, même si nous quittons l'Union. Au fond, De Gaulle avait raison. Le Royaume-Uni n'est pas fait pour l'Union européenne. Il a eu raison dans les années 60 d'opposer un veto à notre candidature. Tant de choses contre lesquelles il mettait en garde se sont produites.
Quelle serait la raison principale pour laquelle vous souhaitez quitter l'Union européenne ?
La démocratie. Ce que vous votez aux élections nationales doit déterminer comment vous êtes gouverné. Et au sein de l'Union européenne, il y a plein de choses qu'on ne peut pas changer. Il s'agit de donner aux électeurs ce pourquoi ils ont voté au lieu de se retrouver avec la Cour européenne de justice ou la Commission qui ne tiennent pas compte des volontés des gouvernements.
Enjoy the movie.
Thank you very much. Thank you. Great pleasure.
This film is a rallying cry. We must fight for our independence, for the right to determine ourselves, the laws under which we live, and for the freedom to shape our own future.
This is the most important voting decision that any of us is going to make in our lifetime.
In this film, we'll see how the EU works.
It's like heaven for the politician or bureaucrat, because it's power without accountability.
We will see what the EU has done to Britain.
The EU has just obliterated the English fishing industry altogether.
The European policies that we face are really the single biggest threat to our competitiveness.
The European Union has become an economic basket case.
Certainly, it is not in our economic interests to remain within the European Union. No way.
It's time to remember our freedom and independence. The right to decide ourselves how we live our lives.
There's a lot at stake here. What we want is democracy. We, the people, should determine our own destiny. We have the capacity to shape our own futures. So my question is, what price freedom?
Sortie de salle après Brexit, The Movie, un long film anti-UE, plutôt réussi dans la forme, assez drôle même parfois, mais que les europhiles jugeront sans doute de très mauvaise foi. Et voici Nigel Farage à la sortie du film.
Leader du parti populiste et anti-UE, UKIP.
Mr. Farage, what did you think of the film? Qu'avez-vous pensé du film?
I thought ah, ce film, je l'ai trouvé joyeux, optimiste. Ça dit, regardez, on est une nation indépendante depuis 1000 ans, on n'a pas besoin d'une bande de vieillards fatigués qui dirigent notre pays depuis Bruxelles. Débarrassez-nous de ça et on sera à nouveau une grande nation. Ça, j'ai aimé.
C'est donc une publicité parfaite pour la cause eurosceptique.
Oui, particulièrement pour le monde des affaires. Il y a plus de 5 millions d'hommes et de femmes dans ce pays à la tête de petites entreprises ou à leur compte. Et ce film montre que Bruxelles est un club de lobbyistes. C'est pas pour les gens ordinaires. Alors on va gagner.
Kate Hoey est aussi présente ce soir. C'est l'une des rares députées travaillistes favorables au Brexit. Mrs. Hoey, sorry. Qu'avez-vous pensé du film ?
Même pour quelqu'un qui croit en savoir beaucoup sur l'UE, ce film m'a appris beaucoup de choses. Fondamentalement, ce film parle de démocratie et c'est tout l'enjeu du référendum.
Une raison travailliste pour quitter l'UE.
Reprendre le contrôle pour pouvoir contrôler qui entre et qui sort de notre pays. Parce qu'en ce moment, l'immigration tire les salaires vers le bas. Et nous ne sommes pas protégés par l'UE. Seul notre gouvernement peut nous protéger. On peut le mettre dehors s'il ne nous plaît pas. On ne peut pas avec les commissaires européens.
Thanks a lot. Daniel Hannan vient de voir le film. Il est député européen, conservateur, et c'est l'une des figures également du camp du Brexit. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions en français ? Quel est le principal message que vous voulez faire passer aux gens, aux Britanniques, pour les convaincre de sortir de l'Union européenne ?
Un peuple libre doit vivre avec une loi nationale. Ça n'est pas un nationalisme ni un égoïsme, c'est seulement la démocratie simple. Et je pense, j'espère que une votation pour quitter l'Union peut commencer un renouveau démocratique par tout le continent.
L'économie, est-ce que c'est une faiblesse pour le camp du Brexit, pour l'argumentaire de votre camp?
Comme vous venez de voir dans le film, tous les continents du monde sont en train de croissance économique, sauf l'Europe et l'Antarctique.
Mais vous n'aurez plus de travail alors?
Oui, ça sera un peu triste pour moi personnellement, mais je suis sûr que je vais trouver quelque chose dans le boom qui va suivre le Brexit.
Christchurch, dans le Dorset, à 2 heures environ en train au sud-ouest de Londres. On va rencontrer Simon Boyd, l'un des chefs d'entreprise britanniques favorables au Brexit. Il travaille dans le domaine de l'acier. Son entreprise s'appelle Reed Steel. L'un des grands enjeux du débat européen au Royaume-Uni, c'est l'économie. Pour les pro-UE, le pays s'expose à un désastre économique en cas de Brexit. De très nombreuses entreprises soutiennent l'appartenance à l'Europe, le statu quo. Mais le monde des affaires est divisé. On trouve aussi beaucoup de patrons eurosceptiques. C'est le cas ici, dans cette zone industrielle de Christchurch. Et on se trouve devant les locaux de Reed Steel, une grande entreprise britannique de transformation de l'acier qui fabrique des hangars, des usines, des structures d'acier dans le monde entier. Et on a rendez-vous avec le directeur de la société, un patron qui soutient le Brexit. Il va nous dire pourquoi. Hello, this is France Inter, please. To meet Simon Boyd. Thank you.
My name is Simon Boyd. I'm the managing director of Reed Steel.
Je m'appelle Simon Boyd. Je suis le directeur de Reed Steel. Une entreprise spécialisée dans la conception et la construction de tout type de structures d'acier.
En tant qu'homme d'affaires, pourquoi est-ce si important pour vous de quitter l'Union européenne?
D'un point de vue commercial, le problème vient de la quantité écrasante des régulations venues de Bruxelles auxquelles nous faisons face. Notre concurrence est mondiale. Les exportations représentent environ 80% de notre activité. Nous sommes en compétition avec des pays qui n'ont pas à franchir tous les obstacles que nous avons à franchir. Et cela nous rend moins compétitifs. Nous n'avons rien contre quiconque en Europe et on veut rester amis avec tous nos voisins européens. Le problème, c'est Bruxelles. Et la manière dont un groupe de bureaucrates non élus pense savoir mieux que les autres comment gouverner le pays. Nous devons nous débarrasser de ce fardeau de régulation.
Quelle est votre réponse aux europhiles qui estiment qu'une sortie de l'Union européenne engendrerait un désastre économique pour le Royaume-Uni et pour l'UE?
No, it's absolute nonsense, of course.
Ça n'a bien sûr aucun sens.
I think that if we voted to leave,
je pense que si nous votions pour quitter l'Union européenne le 23 juin, les lumières ne s'éteindraient pas. Il y aurait une renégociation avec Bruxelles sur les termes du divorce. Je ne pense pas que vous arrêteriez de nous vendre du vin et que vous voudriez que l'on arrête de venir en France pour nos vacances, ce que beaucoup d'entre nous faisons chaque année. Je pense que ça nous libérera d'une énorme pression. Les chaînes seront brisées. Les entreprises seront libres de travailler et de faire du commerce. Nous aurons notre propre accord commercial avec l'Union européenne ainsi qu'avec le monde entier.
Donc on enfile le casque, les vestes de sécurité orange et on va aller visiter l'usine.
Yes.
So we go this way. The factory goes
Notre usine ici s'étend sur 3 hectares, mais on utilise aussi des installations dans tout le pays qui produisent pour nous, pour des projets plus gros. Nous gardons ici un fonctionnement flexible pour pouvoir réagir très vite aux demandes des clients. C'est là que l'acier sort, est préparé, etc.
Auriez-vous un exemple ici dans l'atelier de quelque chose que l'Union européenne vous empêche de faire ?
Le seul exemple que je peux vous donner, c'est que quand une pièce d'acier arrive ici dans l'enclos, directement de l'usine, on lui donne un numéro, et ça, il faut qu'on s'assure que la pièce a été fabriquée en accord avec le processus européen de marquage CE, conforme aux exigences. Idem pour toutes les composantes qui arrivent ici, et tout ça ne veut pas dire que c'est un produit bien conçu, que c'est de la qualité. C'est juste une perte absolue de temps et d'argent.
Nous sommes à West Hendon, dans l'Essex, à l'est de Londres. C'est une banlieue lointaine, pavillonnaire de la capitale, de classe moyenne. L'électorat ici est plutôt conservateur, sans doute plutôt eurosceptique. On va passer une partie de la matinée avec des militants pro-Brexit de Vote Leave, la principale organisation, l'organisation officielle du Out dans cette campagne référendaire. May I follow you?
You may.
Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
My name's Kat.
Je m'appelle Kat Tierney.
Vous êtes une militante du Parti conservateur. You're a member of the Conservative Party.
Yes.
What are we doing exactly? Qu'allons-nous faire exactement?
So what we're going to do is knock on people's doors.
Donc ce que nous allons faire, c'est frapper aux portes des gens pour savoir s'ils ont pris leur décision sur le vote et noter cela. S'ils nous disent qu'ils ont décidé de voter pour sortir, on en prend note. Idem s'ils nous disent qu'ils vont voter pour rester. Et s'ils sont indécis, on leur donne des tracts. Bonjour, pardon de vous déranger. Nous faisons une enquête pour savoir si les gens vont voter au référendum sur l'Union européenne et s'ils voteront pour rester ou sortir. Ok, pas de problème. Au revoir.
Je m'appelle Lorraine.
Vous êtes une jeune femme de 24 ans qui veut quitter l'Union européenne. Pourquoi ?
Je pense qu'on nous traite souvent de racistes ou de xénophobes, ce qui est faux. J'ai du sang italien et irlandais, donc je suis la preuve vivante que ce n'est pas ça du tout. Je pense que la chose principale, ce serait que le Royaume-Uni puisse se gouverner totalement seul.
Est-ce que votre vote pour le Brexit est aussi une question de fierté, fierté de votre pays ?
Oui, ça l'est d'une certaine manière. Malheureusement, quand vous apparaissez comme quelqu'un de fier d'être britannique, c'est une mauvaise chose. Et c'est terrible. En Grande-Bretagne, il y a plein de choses dont on peut être fier. Et malheureusement, je pense que ces deux dernières années, on nous a forcés à effacer cette fierté. Il suffit d'écouter les médias, de regarder autour de soi. La campagne de la peur contre le Brexit est franchement phénoménale. Donc oui, il y a de la fierté et il le faut.
Je m'appelle Paul Farage, j'ai 36 ans, j'habite à Brentwood dans l'Essex. Je travaille pour une banque américaine et je suis un électeur du Parti conservateur. Je pense que l'Union européenne est fondamentalement non démocratique et je suis de plus en plus mal à l'aise du fait que beaucoup des lois qui gouvernent le Royaume-Uni viennent maintenant plus de Bruxelles que de Westminster. Quand le Royaume-Uni a rejoint la communauté économique européenne, c'était d'abord un marché libre et 40 ans plus tard, il est pour moi évident que de plus en plus, l'Union européenne se dirige vers des États-Unis fédérés d'Europe et ça ne me convient pas du tout.
Que pensez-vous des divisions au sein du Parti conservateur au sujet de l'Union européenne ?
J'applaudis David Cameron pour deux choses. La première, c'est qu'il nous a donné un référendum. Et je l'applaudis aussi pour avoir donné aux membres du gouvernement britannique la liberté de faire campagne comme ils le souhaitent. Ce qui m'a déçu, c'est l'approche du camp du maintien dans l'Union européenne. Ça a été baptisé le projet de la peur. Au lieu de donner des raisons positives et convaincantes de rester dans l'Union, le camp du Hin a de manière très déloyale et incorrecte parlé des risques d'une sortie. Et il a expliqué que le Royaume-Uni, bien qu'étant la cinquième puissance économique du monde, ne pourrait pas s'en sortir si elle devait quitter l'Union. David Cameron a été incohérent, car il y a 18 mois, il nous disait que s'il ne pouvait pas réformer l'Union, il pourrait potentiellement faire campagne pour en sortir. Et d'un coup, il a fait un virage à 180 degrés. Il nous dit maintenant que le Royaume-Uni serait l'homme pauvre de l'Europe s'il sortait de l'Union.
Vous avez une petite fille ici. Vous souhaitez qu'elle grandisse dans un Royaume-Uni indépendant de l'Union européenne ?
Oui, je pense que notre avenir serait radieux en dehors de l'Union européenne. Nous sommes un pays qui prospérerait en dehors de l'Union. Et je ne vois aucune raison d'avoir peur. Je ne vois que des raisons d'être optimiste pour la vie de ma fille si le Royaume-Uni quittait l'Union.
Vous venez de faire un peu de porte-à-porte ce matin pour la campagne. Quel est le bilan ?
C'est assez équilibré, pour être honnête. Il y a beaucoup d'indécis, beaucoup qui ne disent pas ce qu'ils vont voter. C'est d'ailleurs la majorité des gens qu'on a vus aujourd'hui. Ceux qui veulent rester et ceux qui veulent partir sont très sûrs de leur choix. Mais ils étaient minoritaires aujourd'hui.
Si on parle de ceux qui sont pro-Brexit, quelle est leur principale préoccupation ?
En tant que Britannique, on a tendance à être docile, à accepter tout ce que l'Europe nous dit de faire. Ceux qui veulent sortir, ils ne veulent plus accepter cela. Ils ne veulent plus avoir à faire ce qu'on leur dit de faire. L'immigration joue aussi un rôle. Pas forcément les gens qui viennent ici, mais l'effet que ça peut avoir sur nos infrastructures.
Est-ce que vous seriez satisfaite de voir Boris Johnson devenir Premier ministre d'un Royaume-Uni qui a quitté l'Europe ?
Je serais absolument ravie. Je pense que Boris Johnson dit des choses très sensées au-delà de ses fanfaronnades, et je pense que c'est un atout majeur pour la campagne du Brexit, c'est sûr.
Quand on parle de l'Union européenne au Royaume-Uni, l'une des principales préoccupations des électeurs, c'est l'immigration. Beaucoup de Britanniques souhaitent quitter l'UE pour pouvoir mieux contrôler les frontières. Le solde migratoire dépasse les 300 000 personnes dans le pays, dont une forte proportion d'Européens de l'Est. La population du Royaume-Uni augmente vite. Les immigrés, des études le montrent, ont un impact positif sur l'économie britannique. C'est une main-d'œuvre souvent jeune, efficace, bon marché. Mais ils sont souvent accusés d'abuser des aides sociales, de prendre des emplois, des places dans les écoles, d'accentuer la pression sur le système de santé. Ces inquiétudes sont particulièrement vives ici, à Boston, une petite ville de 65 000 habitants, dans l'est de l'Angleterre. D'après le recensement de 2011, le dernier recensement, 13% de la population locale vient de l'Union européenne, essentiellement d'Europe de l'Est. Et cette proportion a sans doute augmenté depuis 2011. D'après les sondages, Boston est par ailleurs l'une des villes les plus eurosceptiques du pays.
Je suis Lorraine Pancott.
Quelle est votre opinion sur l'Union européenne ?
Je pense que nous devrions sortir.
Je pense que nous devrions sortir. Mon fils est homme d'affaires. Il pense qu'on se porterait mieux sans toutes ces règles dans les entreprises. Il y en a trop de paperasse. Et je pense que l'immigration est hors de contrôle en Grande-Bretagne. Vraiment hors de contrôle.
L'immigration est un problème particulier ici à Boston. Quelles sont les les soucis que cela entraîne pour vous.
Le crime est le pire des problèmes. Je ne me sens pas en sécurité dehors après 5-6 heures de l'après-midi. Je ne marche plus jamais seule en ville.
Est-ce que vous pensez que votre ville a beaucoup changé ces derniers temps à cause de l'immigration ?
Oui, énormément. Les politiques disent qu'il n'y a pas d'Anglais qui ont travaillé dans les champs ces 40 dernières années. Ils disent que nous avons besoin des immigrés pour travailler sur ces terres. Mais c'est un mensonge, parce que j'ai moi-même travaillé sur ces terres il y a moins de 25 ans. Et toutes les personnes avec qui je travaillais étaient d'ici, de Boston. Je n'ai rien contre les familles qui viennent ici pour avoir une vie meilleure, ce qui est le cas pour beaucoup de gens. Ces familles qui viennent ici pour travailler, aucun problème avec ça. Mais nous ne contrôlons pas les gens. Nous avons tout, les criminels et les gens qui viennent pour toucher les allocations sociales, et ça m'énerve.
Thanks a lot.
Okay, bye bye.
Bonjour, je m'appelle Angela, j'habite à Boston.
Et je m'excuse pour mon français parce que j'ai appris ces quelques mots hier. J'ai 50 ans, j'habite donc à Boston, Lincolnshire. Et nous faisons face maintenant à un afflux massif d'immigrés d'Europe de l'Est. J'ai créé une agence de chauffeurs de poids lourds en 2002.
In 2008-2009,
en 2008-2009, des clients ont commencé à m'appeler pour me dire « Est-ce que vous pouvez réduire vos prix ?» Nous pouvons avoir des chauffeurs moins chers dans une autre agence. Et il s'est avéré qu'il y avait une agence à Spalding, la ville juste après Boston. C'était des Européens de l'Est qui recrutaient de nombreux chauffeurs routiers. Ils les amenaient au Royaume-Uni et ils les installaient dans des mobilhomes. Les prix étaient donc tirés vers le bas. Alors les heures de travail que je pouvais donner à mes chauffeurs ont baissé. Et mes clients sont allés à l'endroit le moins cher. Et finalement, j'ai dû fermer cette activité. Ça a été pour moi le premier impact majeur des travailleurs immigrés sur cette région. Maintenant, nous avons un nombre très élevé de magasins des pays d'Europe de l'Est, y compris un supermarché, ils ont leur propre coiffeur, leur restaurant. Il n'y a presque plus de magasins anglais. Ça a eu un impact majeur aussi sur les écoles. Nous n'avons plus de place en école primaire. Et puis il y a l'impact sur le système de santé, le NHS. J'ai appelé la semaine dernière pour un rendez-vous. J'ai dit que ce n'était pas urgent, que c'était juste quelque chose dont je souhaitais parler au docteur. Quand puis-je avoir un rendez-vous ? On m'a répondu, en juillet.
Vous tenez l'Union européenne pour responsable de la situation ?
Oui, clairement. L'Union européenne nous a contraints à ouvrir nos frontières. Nous pouvons laisser entrer n'importe qui sur le territoire, sans contrôle. Nous ne pouvons pas renvoyer tout le monde, mais nous pouvons dire, nous voulons des gens qui vont venir ici pour travailler avec nous et s'intégrer. J'aimerais que quelqu'un se lève contre le gouvernement et pour le peuple de Boston, parce qu'on ne peut pas accepter plus de monde. Nous avons tous ces Est-Européens qui viennent. Quelqu'un doit dire, ça suffit, fermez vos frontières.
Je m'appelle Daiva. Je suis lituanienne. J'ai fait des gâteaux à domicile pendant 4 ans.
Puis j'ai ouvert cette pâtisserie pour gagner plus. Je sais bien qu'il y a des Anglais à Boston qui sont contre nous parce qu'il y a beaucoup de mauvais exemples. Je connais des gens de Lituanie qui boivent, qui se droguent, qui ne vont pas au travail, traînent dans le coin, demandent de la nourriture et de l'argent. Et c'est une honte. Mais disons que sur 1000 personnes, il y en a 10 qui sont mauvaises. Et donc les Anglais pensent que tous les étrangers sont mauvais, mais ce n'est pas vrai.
Que pensez-vous de la question du référendum sur l'Europe ?
Tout le monde est très anxieux à propos de ça. On ne sait pas ce qui va se passer. Les clients viennent et peuvent juste deviner ce qui pourrait se passer. Moi, je suis là depuis assez longtemps, 12 ans maintenant en Angleterre. Je ne serai pas touchée, enfin, j'espère. Mais d'autres ont peur d'être envoyés vers leur pays.
C'est une inquiétude pour la communauté d'Europe de l'Est d'ici.
Oui, je pense. On ne sait pas ce qui va se passer. Nous avons un magasin, une maison, une fille qui est presque anglaise, elle parle anglais, donc nous comptons vraiment rester ici.
Est-ce que vous pensez que le référendum sur l'UE pourrait changer cette issue-là ?
J'espère que non. Nous entendons juste que ce qui se passera peut-être, c'est que des gens devront rentrer dans leur pays. Mais moi, je resterai seule ici à faire mes gâteaux et j'espère que j'aurai encore des commandes. Et de toute façon, comme nous parlons anglais, nous trouverons du travail. On va rester parce que de toute façon, nous n'avons rien dans notre pays. Nous avons tout investi ici.
Je suis Paul Gleason, je suis un conseiller municipal travailliste du quartier de Skirbeck à Boston. On a eu un grand changement de population ces 10 dernières années à cause de l'immigration venue d'Europe de l'Est. Ils sont venus ici en raison du changement dans le modèle du travail à Boston. Si vous remontez dans le temps, vous aviez des travailleurs qui venaient ici juste pour la journée. Ils prenaient les légumes, les récoltaient et repartaient avec eux. Maintenant, les légumes sont traités et la saison agricole dure 10 mois. Donc, au lieu d'une main-d'œuvre temporaire qui était là pour peu de temps, il y a maintenant plus de travail à Boston et par conséquent, les travailleurs vivent aussi ici. Ça a entraîné des problèmes dans la ville. On a vu les salaires baisser. Boston est l'une des 5 villes où les salaires sont les plus bas dans le pays. Des gens encouragent trop de nouveaux travailleurs à venir à Boston. Ils utilisent la présence de ces nouveaux travailleurs pour tirer les salaires vers le bas. Et ils exploitent aussi gravement ces nouveaux travailleurs. L'autre impact, c'est l'augmentation des loyers. Vous pouvez acheter une maison avec 3 chambres pour moins de 100 000 livres à Boston. Rien dans la loi ne vous empêche de transformer les 2 salons en 2 chambres. Donc vous vous retrouvez avec une maison à 5 chambres sans salon. Vous pouvez mettre 2 personnes dans chaque chambre, les faire payer 60 livres par semaine, et donc au total, pour tous les locataires, c'est 600 livres par semaine, 32 000 livres par an, pour une maison qui a coûté moins de 100 000 livres. Ok, il y a des coûts, mais le retour sur investissement est supérieur à 25%. Ces propriétaires ne se soucient pas des gens qui vivent dans leur maison. Ils ne se soucient pas de Boston et ça entraîne une augmentation des loyers pour tout le monde. Tout le monde ne fait pas ça, mais ça suffit pour casser le marché. Ce ne sont pas les immigrés qui sont un problème, ce sont les personnes qui les exploitent.
Manifestement, l'immigration de l'Union européenne, en particulier de l'Europe de l'Est, est un problème pour les habitants de Boston et beaucoup d'entre eux vont sans doute voter out au référendum du 23 juin.
C'est vrai que ça a eu un impact sur la vie des gens ordinaires. Vous ne pouvez pas gagner autant d'argent qu'avant. Vous payez un loyer plus élevé. Il y a certaines zones dans la ville, en particulier là où se trouvent les logements peu chers. Des gens vivent encore ici, mais ils sont maintenant entourés de maisons occupées par surtout des jeunes, surtout des hommes venus d'Europe de l'Est. Ils restent ici pour un court séjour. Ils viennent pour travailler et repartent ailleurs. Donc il n'y a pas de désir de créer des liens avec la communauté. Ils font sans doute un peu trop la fête le week-end, après avoir travaillé dur la semaine. Et pour ces gens, leur communauté a été détruite. C'est parfaitement compréhensible.
Mais vous, vous allez voter pour rester dans l'Union européenne.
Oui, je pense que les dangers d'une sortie sont trop importants. Je ne veux pas vivre dans le monde dans lequel les conservateurs pro-Brexit veulent vivre. Nous avons besoin de travailleurs. S'ils ne viennent pas d'Europe, ils viendront d'ailleurs. Et on aura exactement les mêmes problèmes. Nous cultivons des terres et nous traitons les récoltes. Ce qui devrait être une belle histoire pour Boston est devenu une sale histoire en raison de l'exploitation des gens qui sont venus ici d'Europe. L'impact du changement de population en ville a tourné une grande partie de la ville contre l'Union européenne.
On dit beaucoup que dans cette campagne référendaire, les eurosceptiques montrent plus de passion, plus d'enthousiasme pour défendre leur cause, mais les pro-UE sont bien sûr aussi sur le terrain. Alors dans leur camp, c'est vrai, les véritables europhiles sont peu nombreux. Beaucoup de Britanniques, même parmi ceux qui voteront contre le Brexit, critiquent l'Union européenne. On rejoint ce soir des pro-UE en campagne, ici, près de Finsbury Park. On est dans le nord de Londres. Ils ont revêtu ce soir le t-shirt bleu « Britain Stronger in Europe », la Grande-Bretagne plus forte en Europe. C'est la principale organisation du IN dans cette campagne référendaire.
Vote yes, remain in the EU, stay in the EU. You don't have to love it, just stay in the thing.
Je suis Alistair Doherty. Je suis citoyen britannique. J'ai longtemps vécu à Londres. J'ai voté oui au référendum de 75. Je n'aime pas l'Union européenne, mais je ne veux pas en sortir.
Pourquoi est-il important pour vous de rester au sein de l'Union européenne ?
Comme Obama a dit, si nous le quittons, il sera très difficile pour négocier un accord commercial avec les autres pays. Je me sens européenne et je veux rester européenne.
Mais vous l'avez dit, je n'aime pas l'Union européenne.
Non, il ne faut pas l'aimer. Hein. C'est très difficile de l'aimer. Et probablement pour nous les Britanniques, il y a trop de l'Europe, mais c'est la seule Europe que nous avons. Il ne faut pas l'aimer pour voter oui dans ce référendum.
On a l'impression que dans ce pays, c'est difficile quand même de faire campagne pour l'Union européenne, de dire du bien de l'Union européenne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, c'est vrai. L'idée de la construction de l'Europe, ça n'existe pas en Angleterre. Notre participation dans l'Union était très pragmatique. Et je pense que ça, c'est le meilleur argument ici. C'est ça qui gagne les votes. Il faut être réaliste et éviter de parler de l'idéalisme de la construction et l'idée de l'Europe.
Ça, c'est bon pour les Français.
Ça, c'est pour les Français. Hein. Mais, oui, ça reste pour les Français et pour les pays d'origine, les six.
Les six du traité de Rome.
Oui.
Mais est-ce que ça veut dire que Au Royaume-Uni, il faut parler essentiellement d'économie pour défendre l'appartenance à l'Union européenne ?
Oui, je pense que les arguments, ils doivent rester basés sur l'économie.
Il faut mettre en avant d'abord les risques d'un Brexit pour défendre l'appartenance à l'Union européenne. Mais les eurosceptiques vous répondront que ça, c'est le « project fear », le projet de la peur, c'est-à-dire que vous essayez de faire peur aux Britanniques pour défendre le maintien au sein de l'Union européenne.
On a raison d'avoir peur. Ça, c'est la vérité. Et il fait froid au dehors de l'Union européenne.
Est-ce que ce vote, c'est le plus important de l'histoire du Royaume-Uni ?
Oui, probablement. C'est le vote le plus important dans ma vie politique.
Plateforme 9, quai numéro 9 pour Cambridge. Beaucoup d'eurosceptiques avancent des arguments historiques pour justifier leur vote en faveur d'un Brexit. Ils estiment que le Royaume-Uni a toujours été unique en Europe, que l'UE n'est en rien responsable de la paix sur le continent, que les Britanniques sont très différents de leurs voisins européens. L'UE menace, disent-ils, la souveraineté de leur pays. On va essayer de creuser cette question ici à Cambridge, juste en face de St. John's College. Cambridge, où nous attend le professeur Robert Toombs, célèbre historien, spécialiste par ailleurs des relations franco-britanniques. Il parle très bien français. Il fait partie du groupe Historians for Britain, les historiens pour la Grande-Bretagne, favorables à une sortie de l'Union européenne.
On peut le faire à l'extérieur, mais ça c'est peut-être plus calme dans mon bureau.
Oui, avec plaisir, on peut aller dans votre bureau, oui, très bien. Mais cela dit, c'est vrai que c'est une journée magnifique.
Oui.
J'ai de la chance.
Alors,
Allez-y, je passe derrière vous.
Asseyez-vous.
Parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi tant de Britanniques ne se sentent pas européens ?
Je ne sais pas si c'est tant, on verra. Mais je pense que jusqu'à récemment, certainement, beaucoup plus de Britanniques se sentent un peu mal à l'aise dans l'Union européenne que dans la plupart des pays. Et je pense que c'est pour plusieurs raisons. Nous avons une histoire au XXe siècle bien moins traumatique que la plupart des pays de l'Europe. Et donc, pour nous, l'Union européenne n'a jamais semblé une grande nécessité, une sorte de façon de se libérer du poids du passé. Comme pour la France, évidemment, les guerres contre l'Allemagne, l'occupation, pour l'Allemagne, le Troisième Reich, pour l'Espagne, la guerre civile, etc. Il y a, je crois, une tradition fortement racinée d'indépendance nationale et de démocratie nationale. La France l'a eu aussi, mais la France a eu cette histoire qui lui a donné une beaucoup plus forte motivation que l'Angleterre d'accepter une sorte de perte, ou si vous préférez, de partage de souveraineté. Il est possible, au moins pour les générations plus âgées, qui sont les plus eurosceptiques, c'est sûr, l'idée que l'Europe n'était pas vraiment quelque chose qui nous accueillait avec beaucoup de chaleur. Grâce peut-être au général de Gaulle en partie. Nous avons presque certainement comparé avec la plupart de l'Europe, des liens avec d'autres continents plus chaleureux et plus profonds, évidemment, avec les autres pays anglophones. Pour nous, l'Europe n'est pas notre seul horizon. Évidemment, le fait de parler la même langue donne un lien culturel et affectif énorme.
Vous êtes membre d'un groupe qui s'appelle Historians for Britain, les historiens pour la Grande-Bretagne, qui fait campagne pour une sortie de l'Union européenne. Quelles sont les raisons historiques pour lesquelles il faudrait sortir de l'Union européenne ?
Pour moi, ce que j'ai déjà dit, notre expérience du siècle dernier est moins catastrophique. Et donc, je pense que ça nous donne le choix psychologique de rester ou de partir, selon ce que nous pensons être notre intérêt économique et même politique. Si on veut aller plus loin dans l'histoire, dans le mythe historique britannique, il n'y a pas cette idée d'un avant-garde politique qui doit mener la nation, comme j'ai cité par exemple les Jacobins en France, Bismarck en Allemagne, les nationalistes, le Risorgimento italien, et d'autres exemples où une minorité qui voit clairement l'avenir doit décider le destinée de la nation. Je pense que les gens veulent décider d'eux-mêmes et ils sont beaucoup moins prêts à être influencés par les élites que dans certains pays. Et c'est pour ça que le résultat de ce référendum est extrêmement douteux. Pour moi, l'Europe s'est trouvée dans une dilemme dangereuse. Économiquement et financièrement, grâce à l'euro, il faut que l'Europe crée une autorité supérieure aux nations. Et donc pour moi, l'Europe va forcément dans une direction qui n'est pas démocratique et qui va presque certainement créer de plus en plus de mécontentement parmi les peuples européens.
Brexit, les partisans du divorce, c'était un reportage de Franck Madvon réalisé par Anne Lioro, assisté de Stéphane Combe. Mixage Jean-Louis Deloncle, Zora Bensmaili réalise notre page internet. Après le journal de 10h, vous avez rendez-vous avec le remède à la mélancolie d'Eva Bester. Bon dimanche sur France Inter.
Merci Lionel Thompson, on vous retrouve avec Interception dimanche prochain dès 9h sur France Inter, une émission réécoutable et podcastable sur le site franceinter.fr. L'occasion de vous rappeler que ce site de France Inter évolue, alors si vous avez envie de le visiter, n'hésitez pas à naviguer sur ces différentes pages et surtout à nous donner votre avis. Une remarque, un problème, une question, prenez quelques secondes pour remplir le formulaire sur le site www.franceinter.fr. Votre avis nous intéresse.